Par la conférencière de ce soir, Madame Monique Chemillet-Gendreau, est une personnalité exceptionnelle. Je sais qu'il n'est pas nécessaire de la présenter, mais je le ferai tout de même très rapidement. C'est une éminente juriste, très connue dans les milieux du droit international, honorablement connue. Elle adopte des positions courageuses. J'en dirai un mot tout à l'heure. Madame Chemillet-Gendreau a participé à pas mal de procédures devant des tribunaux internationaux, tribunaux arbitraux, aussi à des procédures devant la Cour internationale de justice. Elle a travaillé sur une série de différends internationaux, en particulier en Asie, entre le Laos et la Thaïlande, et entre le Vietnam et la Chine. Elle a aussi travaillé comme consultante auprès de l'UNESCO. Madame Chemillet-Gendreau est membre du Tribunal permanent des peuples, connu aussi sous le nom de Fondation Lelio Basso. Elle a participé à la création en 1993 de l'Association européenne des juristes pour la démocratie et les droits de l'homme dans le monde. Elle a effectué beaucoup de missions à l'étranger, dans une série de pays que je ne vais pas énumérer, mais entre autres dans un pays que je connais très bien et qui me tient à cœur, à savoir le Cambodge. Comme vous le savez, Madame Chemillet-Gendreau écrit régulièrement dans Le Monde diplomatique, qui d'ailleurs, Madame, est beaucoup lue au Québec. Elle a fait partie du Collège des médiateurs pour les Africains sans papier, créé en 1996 après l'occupation de l'église Saint-Ambroise à Paris. Et d'ailleurs, c'est une des multiples preuves du fait que Madame Chemillet-Gendreau n'est pas une universitaire qui s'abrite dans une tour d'ivoire, mais une personne qui s'engage sur le terrain. Madame Chemillet-Gendreau est membre du Conseil de l'Institut de la pensée contemporaine, créé par Julia Kristeva et actuellement dirigé par François Julien. Elle a participé au groupe d'experts désigné par une autre institution que je connais bien, le Institut des Drets Humains, ça veut dire l'Institut des droits de l'homme de Barcelone, où elle a été engagée dans la rédaction d'une déclaration des droits de l'homme émergents à l'occasion du dialogue des droits de l'homme qui a clôturé le Forum des cultures à Barcelone en septembre dernier. Madame Chemillet-Gendreau a beaucoup publié, et je ne vais pas vous fournir toute la liste de ce qu'elle a écrit. Je mentionnerai quelques-uns de ses ouvrages plus récent. Bon, elle a écrit sur le droit international, mais aussi sur d'autres sujets. Elle a écrit « L'injustifiable, la politique française de l'immigration », qui a paru en 1998. D'ailleurs, elle s'est beaucoup intéressée et beaucoup engagée aussi en faveur des sans-papiers, comme je l'ai dit tout à l'heure. Elle a publié « Le droit dans la mondialisation », un sujet qui intéresse beaucoup ici, plusieurs de mes collègues et moi-même. Elle a écrit en 2002, elle a publié en 2002 « Droit international et démocratie mondiale, les raisons d'un échec ». Et je m'arrête là pour ce qui est de ces publications. Bref, pour résumer, je crois, même les quelques mots déjà trop longs que je viens de prononcer, montrent que Madame Chemillet-Gendreau est une femme courageuse et engagée. J'ajouterai une remarque un peu personnelle, le genre même de personne que j'aime, et j'espère, Madame, que vous ne m'en voulez pas si je fais cette déclaration d'amour en public. Voilà, sans tarder, je donne la parole à Madame Chemillet-Gendreau.
Bon, je suis évidemment un peu confuse de l'excès de ces propos et de cette belle déclaration que je retourne d'ailleurs Immédiatement, car je suis très heureuse d'être là, très heureuse de retrouver Peter Lefrecht, très heureuse de retrouver Lucie Lamarche et bien d'autres amis québécois que j'avais vus ici il y a 4 ans ou que j'ai eu l'occasion de voir à d'autres occasions dans d'autres endroits. Donc je suis tout à fait bien d'être parmi vous et je suis heureuse de traiter avec vous, de parler avec vous d'un sujet difficile, qui est celui du système institutionnel international et de son inadaptation. Et je ne vais pas analyser ici le système institutionnel mondial et cette inadaptation à la société avec une théorie des organisations, de même que je ne vais pas examiner le droit international dans lequel ce système s'inscrit à la lumière du positivisme juridique. Non, je voudrais ici nouer le juridique et le politique, qui ne devrait jamais être dénoué, et le faire à partir d'une problématique de la violence. En effet, il y a un rapport étroit entre le droit élaboré par une société et la qualité de la relation politique entretenue par la pacification des rapports entre les sujets de droit. Et c'est à l'aune de cette pacification, de cette réduction de la violence, que peut être évalué, que doit être évalué, un système juridico-politique. Les humains, individuellement ou à travers des groupes, sont en conflit entre eux. Le droit permet de transférer le règlement du conflit d'un affrontement en un différent. Il structure une société et lui permet de définir un cadre d'action commune, expression du politique. Et nous sommes aujourd'hui devant une situation inédite où une société mondiale existe par la mise en relation de tous avec tous, et où elle manque à l'évidence d'un projet collectif, ne fût-ce que le projet élémentaire de la survie commune. Or, ce projet est entravé par l'absence d'un droit commun, clé de la régulation de la violence, donc de la définition de l'action. Et l'on voit bien que les sociétés humaines n'en ont pas fini avec la violence. Violence interétatique ou infraétatique, les déchaînements sont là et disent assez clairement l'échec du droit. C'est à la lumière de la question de la violence dans la société mondiale que je voudrais évaluer de manière critique le système international et le droit qui le sous-tend. Alors il nous faut revenir aux origines. D'aussi loin que je me souvienne, écrivait Machiavel, ou bien l'on a fait la guerre, ou bien on en a parlé. Et l'on continue de nos jours à la fois de la faire et d'en parler. Dans les premiers siècles du droit international, aucune injonction normative n'interdit la guerre ni ne limite les armements. La réflexion porte sur la légitimité des guerres. C'est la question de la guerre juste. Il s'agit toujours des guerres entre États, et la dialectique ami-ennemi est au cœur de la société interétatique et du droit international censé l'organiser. Se surajoute alors la neutralité, ce marécage conceptuel jamais clarifié quant à son statut juridique. Dans les sociétés nationales, cette dialectique ami-ennemi est supposée dépassée. Kantorowicz a magistralement montré comment l'amour de la patrie, transformé en haine de ses ennemis, permettait de construire une homogénéité à l'évidence irréelle. Je fais allusion là pas seulement à son très beau livre « Les deux corps du roi », mais un recueil qui est paru récemment en France chez Fayard de différents textes qui s'intitulent « Mourir pour la patrie » et autres textes. Il s'agit d'un considérable travail idéologique autour de l'idée de nation dans cette construction de la patrie. Celle-ci, la nation, va symboliser la continuité du peuple dans l'histoire, doublure nécessaire à l'affirmation de la continuité dynastique de la monarchie. Se battre pour son roi est alors glorifié. Ensuite, cela deviendra se battre pour la patrie, pour la nation. Naturellement, dans ce cadre, les violences sociales sont ignorées ou maîtrisées par l'État, institution unifiante. Les guerres sont alors rejetées à l'extérieur. La question du droit international est donc celle du système par lequel il est possible d'éviter les violences entre États à partir de certaines règles de justice entre eux. Or, ce que je veux soutenir ici, c'est que la logique du droit international, notamment dans la phase que l'on voulait nouvelle, celle qui s'est ouverte avec la création des Nations Unies, ne répond pas à la complexité nouvelle des conflits, lesquels ne cessent donc de s'étendre, mettant en lumière le caractère dérisoire du droit. Je voudrais, à partir de là, pointer le fait que le droit international s'est développé avec des instruments inadaptés à la construction d'une véritable communauté mondiale comme communauté politique. Et je soulignerai pour finir comment les réformes annoncées de l'ONU, réformes institutionnelles ou procédurales, restent en décalage accentué par rapport à la dissémination d'une violence aveugle qui est elle-même une réponse à la confiscation de la violence légitime par un très petit groupe d'acteurs. Alors, un mot pour commencer des ambiguïtés du système. La mondialisation ancienne, mais fortement accélérée au XXe siècle, a fait de la société mondiale une société duale, présentant des relations interétatiques et des relations transnationales qui échappent en grande partie aux États. Mais ceci est ignoré par la doctrine, et à la création des Nations Unies, l'idée que le droit international devait gérer à la fois une société d'États souverains et une société de personnes humaines a été abandonnée. Et ça a été très bien mis en lumière par un beau travail d'Emmanuel Joannet dans les archives de Philosophie du droit, le numéro de 2004. Elle montre comment depuis le XIXe siècle, et même à la fin du XIXe siècle, il est acquis que le droit international public n'est plus qu'un droit entre États. Les relations internationales entre les personnes privées relèvent du droit international privé qui n'est lui-même que le résultat de toutes les conventions que les États passent entre eux relativement aux droits et obligations de leurs nationaux lorsqu'ils se trouvent sur un territoire étranger. Les sujets du droit international sont donc les États et seulement les États. Alors d'où vient cette figure du politique qui n'a pas toujours existé? Les États sont le résultat d'un moment historique crucial qui s'étend sur les derniers siècles du Moyen-Âge en Europe, lorsqu'il y a alors une mutation complète de l'idée d'universel. Les princes commencent à s'affranchir de la double tutelle de l'empereur et du pape lorsqu'ils déclarent « chaque prince est empereur en son royaume ». C'est l'annonce que la pensée de l'universel, qui avait été déployée dans les idéologies impériales, notamment l'Empire romain et ensuite le Saint-Empire romano-germanique, comme un potentiel de domination sur le monde entier, allait se replier, cette pensée de l'universel allait se replier dans des communautés humaines fermées. Le concept absolu de souveraineté sera désormais paradoxalement partagé entre des pouvoirs s'exerçant sur des espaces bornés, en sorte que le territoire devient un enjeu fétiche. Par étapes, les souverainetés se multiplieront sur tous les espaces à la faveur du mouvement d'émancipation des peuples colonisés, tous candidats à la liberté, à travers le désir de souveraineté qui les entraîne dans une crispation sur leurs identités singulières. Mais la crise des souverainetés est en germe dès l'origine. Aucune rationalité ne préside à la division du monde entre États et à l'attribution du pouvoir souverain à tel groupe plutôt qu'à tel autre. Pourquoi ce peuple-là sur ce territoire-là? La question est indécidable et la réponse livrée à la contingence. La fiction de l'universel d'une société au profit de l'État permet de présenter comme homogènes des groupes en réalité puissamment hétérogènes. Lutte des classes, multinationalité, hiérarchies implicites, etc. Toutefois, ce schéma construit par la pensée politique et juridique dès avant la Renaissance et remodelé ensuite par différents apports est aujourd'hui épuisé. La figure de l'État souverain, maître d'un territoire et de la population y demeurant, et symbolisant pour ce groupe liberté et protection, ne correspond plus à la réalité. Elle ne produit plus de sens, même si la crise est très inégale d'une expérience à l'autre. C'est que, dès l'origine et jusqu'ici, la souveraineté a été réduite à un attribut de l'État. Elle a justifié des majestés bouffonnes et des usages monstrueux de la répression et de la violence prétendument légitime, celle de l'État. On a lié la souveraineté et la loi, attendant qu'elles réduisent la violence, donc garantissent la liberté au sein d'une communauté politique. Cependant, rien n'était clair, ni des contours de ces communautés nécessairement multiples et partielles par rapport à l'humanité, ni des bases de légitimité des pouvoirs qui s'y exerçaient. Escamotant la double énigme de l'étendue et de la substance du pouvoir, la souveraineté a pu nourrir le germe des totalitarismes, des vraies dictatures, des fausses démocraties, le risque que les États les plus anciennement démocratiques puissent basculer vers des mouvements extrémistes. On peut refuser d'aller jusqu'à l'énigme du pouvoir souverain, ce que font tous les courants rattachés au positivisme juridique. Mais si l'on veut la percer, cette énigme, alors doit commencer le travail critique sur la souveraineté. Du point de vue du contenu, nous avons cette contradiction entre des inégalités économiques grandissantes, dont on attend de l'État qu'il les réduise, et la soumission de l'État à des acteurs financiers, avec pour conséquence directe l'érosion d'une partie des fonctions régaliennes. Seuls sont protégés et encouragés les fonctions de sécurité et de police. En revanche, les fonctions économiques, contrôle de la monnaie, liberté dans la fixation des impôts ou dans le choix d'une politique économique, les fonctions juridiques, liberté de développer des lois sociales ou économiques, sont limitées parfois jusqu'à l'inexistence. Le discours développé par les démocraties invoque l'état de droit comme objectif central. Mais celui-ci est réduit à des formes qui ne permettent pas d'accéder aux objectifs d'égalité et de liberté supposés. C'est ainsi que les tentatives du welfare state se perdent dans les méandres d'expériences gestionnaires.